derrière moi.
Because I got high, but in 2025.
I was gonna clean my house, but I grabbed my phone. I was gonna get a damn good workout, but I grabbed my phone. Now I'm sitting on my couch, scrolling all alone. Hey, hey, my brain is blown from doom scrolling on my phone. La da 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 da. I was gonna get some sleep, but I grabbed my phone. Thought I'd check just one more thing. Now 2 hours are gone. Now I'm watching a capybara drive a boat. And I'm in the comments arguing with someone I don't know. La da 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 da. I was gonna see my mom, but I grabbed my phone. She left me 3 missed calls, but I was in the zone. Now I'm watching a millionaire renovate their home when I have a list of shit to do in my own. Hey, you share this video, then go get off your phone.
Voilà, donc faut quand même partager la vidéo à la fin, évidemment. Cette chanson, elle est amusante parce que beaucoup parmi nous, pas tous, je pense, mais beaucoup parmi nous, on se reconnaît un peu dedans. En tout cas, tous ceux qui ont un portable greffé à la main. Combien de fois je me suis retrouvé moi-même à scroller 2 heures alors que j'avais prévu de lire un livre, par exemple, ou simplement j'avais prévu d'aller me coucher tôt, et puis finalement j'ai grignoté sur mon temps de sommeil parce que je faisais exactement ce qui est dit dans cette chanson. Et ça, c'est déjà un problème, et je sais que ça ne concerne pas tout le monde ici, mais ce problème-là, c'est rien à côté de ce qui se cache derrière, parce que derrière ce petit problème de téléphone, il y a un mécanisme universel qui, pour le coup, nous touche tous. Et ce mécanisme, le voici. Tu sais ce que tu dois faire, tu sais ce que tu veux faire, tu veux le faire, et pourtant tu finis par faire exactement le contraire, exactement ce que tu ne veux pas faire. Tu veux faire le bien, et tu découvres que c'est le mal qui est à ta portée. Donc le téléphone, évidemment, ici, ça n'est qu'un exemple. On pourrait en donner 1000 autres. Par exemple, on vit la même mécanique dans nos relations. Tu veux rester calme avec ce collègue qui te tape sur les nerfs. Tu es fermement résolu à ça. Tu arrives au boulot ou à la porte de la fac, tu t'es motivé dans ta tête, tu t'es dit « aujourd'hui, je reste serein, je reste zen ». Et puis, il est là, il est assis à côté de toi parce que c'est sa place. Et comme chaque jour, il respire très fort. On n'entend que ça, en fait. Et puis, il s'agite beaucoup. Et puis, il prend trop de place. En fait, il envahit ton espace. Mais tu tiens bon. Tu tiens bon parce que tu t'y es résolu. Tu tiens bon 8 minutes 30 parce qu'au bout de 8 minutes 30, tu commences à entendre ceci à côté de toi. Comme ça. Et là, c'est trop en fait. Donc t'exploses. Tu exploses si tu es extraverti, sinon tu imploses, c'est pareil. Sauf que c'est à l'intérieur de toi que tout est détruit. Et puis la journée se passe. Et le soir, à 23h37, tu es dans ton lit, tu as les yeux grands ouverts et tu n'arrives pas à dormir. Parce que tu t'en veux. Tu t'en veux parce que tu repasses cette scène en boucle et tu te dis, ben voilà, je m'étais promis de tenir, je m'étais promis d'être patient avec ce gars et j'ai encore échoué. Et tu te demandes si ça changera un jour. Et chacun d'entre nous ici, on a notre clic de stylo, notre point de rupture, ce truc qui fait qu'à un moment donné, alors qu'on s'était promis de faire le bien, eh bien c'est le mal qui s'est trouvé à notre portée. Et ça peut être franchement désespérant. Mais évidemment, si je vous en parle ce matin, c'est parce que le texte que je vous propose de lire ensemble ne nous laisse pas sans espérance. En fait, dans ce texte, c'est un texte de Paul, et Paul enfile d'abord la blouse de l'expert, il va nous expliquer d'où vient le problème, et ensuite il enfile la blouse du médecin, parce qu'il nous dit qu'il y a un remède. Ce texte, on le trouvera en Romains 7, 14 à 25, et avant d'aller le lire, je vais prier. Seigneur, nous voulons te remercier pour ta parole. Pour ta parole dont on sait qu'elle n'est pas une parole comme les autres. Elle n'est pas comme ces autres vieilles paroles de l'Antiquité qui nous sont parvenues par d'autres biais. Elle n'est pas comme les paroles du monde qui nous entoure, qui sont éphémères, qui s'envolent, qui ne durent pas, qui ne sont pas solides, pas stables, qui sont parfois mensongères. Ta parole est la vérité, ta parole est lumière et vie, ta parole nous guide, ta parole nous transforme. Et nous savons que pour cela, nous avons besoin de l'accueillir avec l'aide de ton Saint-Esprit, celui qui ouvre nos cœurs à ta parole, pour que nous la voyions et que nous la recevions pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une parole vivante, une parole qui vient nous parler à nous personnellement. C'est l'aspiration de notre cœur ce matin. Nous te prions de venir nous rejoindre là où nous nous trouvons et de nous amener là où toi tu veux nous emmener. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Alors en Romains 7, Paul dit ceci. Nous savons que la loi a été inspirée par l'Esprit de Dieu, mais moi, je suis comme un homme livré à lui-même, vendu comme esclave au péché. En effet, je ne comprends pas ce que je fais, je ne fais pas ce que je veux, et c'est ce que je déteste que je fais. Et si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. En réalité, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Car je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ce que je suis par nature. Vouloir le bien est à ma portée, mais non l'accomplir. Je ne fais pas le bien que je veux, mais le mal que je ne veux pas, je le commets. Si donc je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Je découvre ainsi cette loi, lorsque je veux faire le bien, c'est le mal qui est à ma portée. Dans mon être intérieur, je prends plaisir à la loi de Dieu. Mais je vois bien qu'une autre loi est à l'œuvre dans mon corps. Elle combat la loi qu'approuve ma raison et elle fait de moi le prisonnier de la loi du péché qui agit dans mes membres. Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps voué à la mort ? Dieu soit loué, c'est par Jésus-Christ notre Seigneur. En résumé, moi-même je suis par la raison au service de la loi de Dieu, mais je suis dans ce que je vis concrètement, esclave de la loi du péché. Ce texte, il est touchant évidemment parce qu'il nous rejoint dans une lutte que nous ne connaissons que trop bien. Et pourtant, il soulève une question chez les théologiens qui peut paraître étrange au premier abord, mais qui vaut la peine, je crois, d'être réfléchie. Cette question est la suivante. Paul parle-t-il ici de lui-même, dans sa condition de chrétien, ou est-ce qu'il utilise un jeu rhétorique pour parler de sa condition d'avant sa conversion, la condition dans laquelle il était quand il était pharisien. Et quand j'ai entendu parler de cette controverse la première fois, franchement, je l'ai balayé d'un revers de main, parce que je me reconnaissais tellement dans cette lutte intérieure que, pour tout dire, je trouvais assez méprisable qu'on puisse se considérer au-dessus de cette lutte une fois devenu chrétien, comme si ça ne me concerne pas. Mais je dois aussi reconnaître que j'ai vécu depuis des libérations intérieures qui m'ont fait revoir un peu ma copie et lire ce texte autrement. Parce que, quand même, Paul emploie des mots très très forts ici. Au verset 14, il dit « Je suis comme un homme livré à lui-même », c'est-à-dire tout seul, quoi, « vendu comme esclave au péché ». C'est fort. Au verset 25, il dit « Je suis dans ce que je vis concrètement, esclave de la loi du péché ». Esclave de la loi du péché, c'est quand même très fort. Et on peut se demander si c'est le même Paul qui disait au chapitre 6, chapitre précédent, que vous pourrez lire si vous le souhaitez, chapitre 6, verset 4, il dit « Nous avons donc été ensevelis avec Jésus, avec Christ, par le baptême, en relation avec sa mort, afin que comme Christ a été ressuscité par la puissance glorieuse du Père, nous aussi nous menions une vie nouvelle. » Il y a une comparaison ici entre la vie nouvelle que nous sommes supposés mener et la résurrection d'entre les morts de Jésus-Christ. C'est par la même puissance. Verset 11, il dit, toujours au chapitre 6, « Ainsi vous aussi considérez-vous comme mort pour le péché et comme vivant pour Dieu dans l'union avec Jésus-Christ. » Là encore, on voit un changement absolument radical. On est passé de la mort à la vie. Et au verset 14, toujours du chapitre 6, il dit « Car le péché ne sera plus votre maître, puisque vous n'êtes plus sous le régime de la loi, mais sous celui de la grâce. » Alors, comment Paul peut-il dire un chapitre plus loin « Je suis vendu comme esclave au péché » Je suis esclave de cette loi du péché. Est-ce que c'est bien le même homme qui parle ? Eh bien oui, bien sûr, c'est le même homme qui parle. Alors comment est-ce qu'il peut dire une chose et son contraire au chapitre suivant ? Et en même temps, est-ce que c'est bien juste de régler cette question simplement en disant « Non mais Paul, là, il parle des non-chrétiens, ce texte ne me concerne absolument pas. Je ne me sens pas du tout concerné. » On sent bien qu'il y a là une tension parce que quand même, ce dont Paul parle fait écho à quelque chose que nous vivons, je crois, dans notre vie de foi. Alors, Paul s'explique. Et c'est par là que ça se passe. Vous connaissez ce schéma, je vous l'ai déjà montré en tout cas. Et si je vous le ressors de temps en temps, c'est parce que bien souvent, je le trouve très aidant pour suivre les discours parfois un petit peu alambiqués de l'ami Paul. Ce que ce schéma nous explique, c'est que du fait du péché qui est entré dans le monde et qui affecte toute la création, moi compris, donc là c'est un moi rhétorique, vous aussi en fait, hein, je suis spirituellement mort quand je sors d'usine, c'est-à-dire dès ma naissance, parce que je suis né dans un monde déchu, infecté par le péché de toutes parts. Je suis pécheur dans ma nature même, c'est aussi ce que Paul a dit dans le texte qu'on a lu, parce que je suis né dans ce monde déchu. Et comme je suis pécheur dans ma nature même, j'agis conformément à ma nature, et donc je pêche. Qu'est-ce que fait un pécheur ? Il pêche, c'est ça un pécheur. Or, le salaire du péché, c'est la mort. Et c'est pour ça que Paul dit en Éphésiens 2, c'est le verset qui est affiché ici, « Vous étiez morts du fait de vos fautes, des péchés auxquels vous vous adonniez autrefois sous l'empire de ce monde, le prince de l'autorité de l'air, cet esprit qui est maintenant à l'œuvre chez les rebelles. » Et c'est ce que Paul dit dans le texte. « Je suis comme un homme livré à lui-même, vendu comme esclave au péché. » Ce qu'il décrit là, c'est la situation d'un homme qui, parce qu'il est spirituellement mort, n'a pas d'autre choix que d'être son propre centre névralgique. Puisqu'il n'est pas en relation avec Dieu, alors il est son propre référentiel, un référentiel entaché et perverti par le péché. Cet homme-là, il fonctionne à partir de ce que la Bible appelle la chair. C'est ce que vous voyez aussi sur le schéma derrière moi. Alors on pourrait penser qu'un tel homme n'a pas d'autre choix que de faire le mal et de s'en trouver satisfait. Mais je crois que si on observe un peu autour de nous, on voit que ce n'est pas ça qu'on voit. Les non-croyants aussi cherchent à faire le bien et constatent eux aussi ne pas y arriver. C'est le fumeur qui veut lâcher son paquet. C'est l'homme adultère qui souffre de sa propre incapacité à rester fidèle. C'est l'enfant qui désespère de ne pas arriver à maîtriser sa colère. Il y a une dissonance entre ce que veut cet homme, ou cette femme, vous m'avez compris, et ce qu'il fait. Et c'est déjà vrai pour le non-croyant, alors qu'il n'a pas le référentiel de la loi de Dieu, parce que malgré tout, il n'est pas complètement ignorant de cette loi. Paul, en Romains 1, versets 19 et 20, dit que ce qu'on peut connaître de Dieu est clair pour eux, Dieu lui-même le leur ayant fait connaître, car depuis la création du monde, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient dans ses œuvres quand on y réfléchit. Et l'homme réfléchit en observant les œuvres de Dieu, la création autour de nous, en étudiant comment cette création fonctionne, quelles sont les lois qui la régissent, on peut saisir des éléments de la loi de Dieu et alors se crée cette dissonance. Je connais le bien et le bon, au moins en partie, ma raison la prouve, et pourtant c'est le mal que je fais. Mais ça a été dit aussi par Samuel dans l'introduction, ce qui est vrai pour le non-croyant est encore plus vrai pour celui qui croit au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, tel qu'il nous est révélé dans la Bible. Parce que celui-là, il a avec lui la révélation donnée par les prophètes. Il connaît la loi. Et Paul était l'un de ceux-là. C'était un pharisien. La loi, il la connaissait mieux que nous, probablement. Il la connaissait sur le bout des doigts. Et le constat pour lui n'en est que plus douloureux. C'est ce qu'il dit au verset 15. « Je ne comprends pas ce que je fais. » Et là, on voit que son intellect ne parvient pas à le sauver. Il ne comprend pas ce qui se passe. « Je ne fais pas ce que je veux. » Sa volonté non plus ne parvient pas à le sauver. Elle est défaillante. Il veut faire une chose et il en fait une autre. Et finalement, c'est ce que je déteste que je fais. Ces émotions aussi dysfonctionnent parce qu'en fait, on n'est pas supposé faire ce qu'on déteste. Volonté, intellect et émotion, si vous regardez ce schéma, vous voyez bien que connaissant la loi de Dieu, Paul, là, est vraiment dans le registre de l'âme déchue. l'âme livrée à elle-même, sans recours extérieur, sans aide. Et pourtant, il connaît la loi de Dieu et il l'aime. Et alors vient ce cri, ce déchirement au verset 24 et 25, « Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps voué à la mort ?» Dieu soit loué, tadam, c'est par Jésus-Christ, notre Seigneur. Jésus est mort à la croix pour moi. Jésus a pris sur lui mon péché et ma condamnation. Et en plaçant ma foi dans le Christ, je suis mort à mon ancienne vie et Dieu m'a fait renaître à une vie nouvelle. Mon esprit qui était mort du fait de mes fautes est revenu à la vie. Et maintenant, je suis en relation avec l'Esprit du Seigneur. Donc, tout est bien, qui finit bien, sauf que ce n'est pas magique. Ça aussi, ça a été dit tout à l'heure, quand on en est là, on n'est pas au bout du combat, on est au début du combat. Ce qui change, c'est qu'on a maintenant toutes les armes qu'il nous faut. Mais la vie chrétienne, c'est un combat qu'il va nous falloir mener. Et le langage de Paul, si vous me permettez de le dire comme ça, parce que c'est vraiment comme ça que je l'entends et que je le vois, c'est un langage de toxico, là, de toxicomane. Quand j'entends au verset 19 « Je ne fais pas le bien que je veux, mais le mal que je ne veux pas, je le commets », j'entends là le langage de l'addiction. Et derrière l'addiction, il y a une puissance. Et c'est pour ça que Paul dit « En réalité, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. » Il y a un principe actif, là, qui combat ma volonté. Alors, il y en a qui s'accrochent à cela pour se dédouaner, en mode, en fait, finalement, ce n'est pas de ma faute, hein, c'est le péché qui est en moi. Il y a la version, c'est Satan, ce n'est pas moi, j'y suis pour rien. Et si tu es de cela, lis le chapitre 8, je vais t'en livrer un extrait, tu ne vas pas être déçu du voyage. Chapitre 8, verset 7, il est dit, c'est Paul toujours, hein, le même Paul, hein, 6, 7 et 8, c'est Paul qui écrit tout ça. Et au chapitre 8, il dit « En effet, l'homme livré à lui-même dans toutes ses tendances n'est que haine de Dieu. Il ne se soumet pas à la loi de Dieu, car il ne le peut même pas. » C'est violent comme parole, hein, quand on y pense, c'est très, très très fort. Il dit « Les hommes livrés à eux-mêmes sont incapables de plaire à Dieu. » Mais il ajoute au verset 9 « Vous, il s'adresse aux chrétiens là, vous, au contraire, vous n'êtes pas livré à vous-même. Vous n'êtes pas livré à vous-même, mais vous dépendez de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Vous avez donné votre vie à Christ. Vous lui appartenez. Vous avez l'Esprit de Christ en vous. Vous n'êtes pas livré à vous-même. Alors oui, il y a une puissance, mais toi, tu n'appartiens pas à cette puissance. Et il y a en toi une puissance supérieure, une puissance de résurrection, la puissance de celui qui a ramené Jésus d'entre les morts, la puissance de celui qui a terrassé l'ennemi à la croix. Et Paul ajoute, à partir du verset 12, toujours dans Romains 8, que vous pourrez lire aussi à la maison, « Ainsi donc, frères et sœurs, si nous avons une obligation, ça n'est pas celle de vivre à la manière de l'homme livré à lui-même. Car si vous vivez à la manière de l'homme livré à lui-même, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actes mauvais que vous accomplissez dans votre corps, vous vivrez. Car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. En effet, vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la crainte. Non, vous avez reçu l'Esprit en conséquence de votre adoption par Dieu comme ses fils et ses filles, car c'est par cet Esprit que nous crions « Abba », c'est-à-dire « Père ». On a loué le Seigneur ce matin. Si on a loué le Seigneur, c'est parce que nous sommes ses enfants. Il y a une puissance, mais tu n'appartiens pas à cette puissance. Et je sais qu'on peut croire le contraire, parce que cette puissance, précisément, elle est puissante. Elle est plus puissante que toi même. Mais je le répète, tu ne lui appartiens pas. Elle n'a aucun droit sur toi, elle n'a pas le droit d'être dans ta vie, parce que toi, tu appartiens au Seigneur qui t'a adopté comme son fils, qui a vaincu à la croix toutes les puissances qui t'asservissent, et qui vit en toi par son Esprit Saint. Alors cette puissance, tu vas devoir la combattre d'arrache-pied. Tu vas devoir utiliser toutes les armes à ta disposition. Et quand je dis toutes les armes, je ne parle même pas que des armes spirituelles. Je veux dire toutes les armes. Pourquoi on tombe dans le péché ? On tombe dans le péché parce que le péché est attrayant. Il y a une notion de plaisir. Et le plaisir est bon. C'est bon le plaisir. C'est Dieu qui a créé le plaisir. Le plaisir, il est là pour nous faire avancer dans la vie. Et ça se passe au niveau du cerveau. Alors moi, je ne suis pas neurologue, mais il y a un médecin qui est venu nous expliquer le processus de l'addiction au camp Barnabas, dans lequel j'ai enseigné la semaine dernière. Et d'ailleurs, je remercie l'Église de m'avoir permis d'y aller, c'était super. Et il nous a expliqué, elle nous a expliqué, c'était une femme, ce médecin, que certains comportements donc, activent la dopamine, qui est l'hormone du plaisir. Et puis là, il y a une réaction en chaîne qui se met en place, qui fait que le cerveau, au bout du compte, se dit « bah, c'est bon ça, ça c'est bon, ça me fait du bien ». Et ça, c'est le circuit de la récompense. Mais il y a trois autres circuits cérébraux. Une fois que le circuit de la récompense est activé, il active celui de la mémoire et de l'apprentissage. Je me souviens que ce comportement fait du bien, et donc j'apprends. Et c'est pour ça qu'il y a une grande corrélation entre le plaisir et l'apprentissage. J'aime bien ce dicton qui dit que si on ne fait pas ce qu'on aime, on a tout intérêt à aimer ce qu'on fait, parce que si on trouve le moyen de prendre du plaisir à ce qu'on fait, eh bien on va mieux apprendre. Une fois que le circuit de la mémoire et de l'apprentissage est activé, il active à son tour le circuit de la motivation. Et ça, c'est ce qui nous met en mouvement. C'est ce qui va faire qu'on va y revenir à ce comportement, une fois et une autre fois. Mais heureusement, il y a quand même un dernier circuit qui s'active, normalement, et qui est celui du contrôle. Parce que c'est bon, d'accord, c'est bon, c'est très bien, mais quand est-ce qu'on s'arrête ? Le carré de chocolat devant la télé le soir, c'est bon. Le deuxième aussi, la plaquette aussi, deux plaquettes, trois plaquettes, dix plaquettes. Quand est-ce qu'on s'arrête en fait ? Eh bien, quand le système s'emballe, l'addiction arrive. Récompense et mémoire commencent à tourner en roue libre, tandis que motivation et contrôle dysfonctionnent. Alors, je vais parler d'addiction, et peut-être que vous ne vous sentirez pas tous concernés. Mais attention, parce que dans le péché aussi, il y a un processus addictif. Ça fonctionne de la même manière. Et à mon avis, on devrait traiter nos péchés récurrents exactement comme on traiterait une addiction, parce que je crois que c'est la même chose. Et là, pour le coup, je serais bien surpris qu'il y ait quelqu'un qui ne soit pas concerné dans cette salle. Alors, quand est-ce que ça déraille ? Ça déraille à force de répétition. Et quand est-ce qu'on parle d'addiction ? D'abord, il y a deux types d'addiction. Il y a les produits psychoactifs qui agissent directement sur le cerveau. Donc ça, c'est par exemple l'alcool, le tabac, le sucre aussi, c'est un produit psychoactif, et peut-être qu'il serait temps qu'on se mette à en parler de celui-là. Et puis, il y a les addictions comportementales, donc ça, c'est les réseaux sociaux, les jeux vidéo, les jeux d'argent, le sexe. Bon, ce n'est pas des listes exhaustives, hélas. Et l'addiction, elle commence quand le besoin dépasse le plaisir. Et pour s'auto-évaluer, et ça vaut aussi pour l'addiction à un péché récurrent, je crois, il y a une règle qu'on appelle la règle des 5 C. Le premier C, c'est le contrôle. Il y a une perte de contrôle. On veut s'arrêter, mais on n'y arrive pas. Le deuxième C, je suis désolé, c'est de l'anglais parce qu'il voulait garder les 5 C, c'est craving. Je ne connaissais pas le mot, mais c'est un mot qui désigne un désir intense, un désir irrésistible de consommer. C'est irrésistible. Le troisième C, c'est compulsif, c'est-à-dire c'est maintenant, c'est un moment... On lâche tout et on doit aller consommer là, maintenant, tout de suite. C'est continu, c'est-à-dire que c'est un usage chronique, c'est répété, et puis ça a des conséquences. Il y a des conséquences néfastes, évidemment, sur notre vie. Ce n'est pas quelque chose qui est anodin. Si les 5 C sont présents dans votre vie depuis plus d'un an, eh bien, vous avez un problème d'addiction. Et là, vous avez besoin d'aide. Et je voudrais bien parler de recettes miracles. Mais la vérité, c'est que les causes de l'addiction sont multifactorielles et qu'en conséquence, ça peut prendre du temps d'en sortir. Parce qu'il ne s'agit pas de traiter le symptôme, mais bien d'aller aux racines. Et il se trouve que des racines, il n'y en a pas qu'une. Il y a des facteurs favorisants qui sont parfaitement identifiés par les personnels de santé, qui sont d'ordre personnel, la vie qu'on a menée, d'ordre psychologique, d'ordre génétique, environnemental. Et si tous ces facteurs sont réunis, eh bien on est particulièrement vulnérable. Et moi, j'en rajouterai un, qui est le facteur spirituel. Parce que si en plus de ça, vous n'avez pas l'esprit du Seigneur dans votre vie, eh bien, vous multipliez les probabilités d'aller chercher votre soulagement dans une idole plutôt qu'en Dieu. Parce que pour le dire clairement, spirituellement, que ce soit une question d'un péché récurrent, que ce soit la question d'une addiction, on est dans un processus d'idolâtrie. Et les chrétiens peuvent aussi tomber là-dedans. Dans l'Ancien Testament, on voit le peuple de Dieu tomber très régulièrement dans l'idolâtrie. Ils adoraient le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, mais ils adoraient aussi Baal, le veau d'or, la reine du ciel. Et on ne voit pas bien pourquoi il ne pourrait pas nous arriver la même chose. Alors, on l'a dit tout à l'heure, je fais juste une aparté pour dire que je pense que ça se fait par glissement, ce genre de choses. C'est-à-dire que ce n'est pas un jour où il se réveille un matin en disant « Bon, l'Éternel, ça suffit, on va ériger un autel à Baal. » Ce n'est pas comme ça que les choses se passent dans la vraie vie, je crois. Je crois que l'idolâtrie s'opère par glissement, petit à petit, on se met à avoir quelqu'un d'autre, là, qui prend la place de Dieu dans notre vie. Donc, on l'a dit tout à l'heure, dans le processus d'addiction ou dans celui du péché récurrent, il y a là, en place dans votre vie, dans notre vie, une puissance qui n'est pas celle de Dieu, une puissance qui s'interpose, qui usurpe la place qui revient à Dieu. Le temple de l'Esprit-Saint que vous êtes est squatté par une puissance démoniaque qui domine une partie de votre vie et qui la contrôle. Ça ne fait pas de vous un possédé, parce que vous appartenez à Jésus-Christ, mais ça fait de vous quelqu'un qui a maille à partir avec une puissance démoniaque qu'il va falloir chasser de votre vie. Et j'ajoute tout de suite que si vous êtes chrétien et que vous avez un problème d'addiction ou de péché récurrent, ça ne fait pas de vous quelqu'un de mauvais. Ça ne fait pas de vous un mauvais chrétien. Mais ça fait de vous quelqu'un qui a besoin d'être aidé, qui a besoin d'être entouré, encouragé et même délivré. Ça fait aussi de vous quelqu'un qui aura une fragilité à vie. Comme dit l'apôtre Paul, que celui qui se croit debout prenne garde de tomber. C'est particulièrement vrai, je crois, pour ceux qui sont déjà tombés et qui se sont relevés. Ils ont une faiblesse et ils devront en tenir compte toute leur vie. Alors, et Jésus dans tout ça? Qu'est-ce que Jésus vient changer? Jésus vient changer beaucoup de choses en vérité, ça va être difficile d'être exhaustif. Premièrement, il nous invite à la repentance. Et la première étape de la repentance, c'est d'admettre son péché, c'est de sortir peut-être du déni. C'est de le confesser, on en a parlé tout à l'heure aussi, c'est d'amener à la lumière ce qui est caché dans les ténèbres. Et il faut avoir ni peur ni honte de ça, parce que c'est l'ennemi qui tremble à l'idée que vous arrachiez de ses mains ce par quoi il vous tient captif. Et donc, je le répète, ça a été dit aussi, il y a dans l'Église non seulement un conseil pastoral, mais il y a même des équipes qui sont là pour vous accompagner, des équipes qui sont formées, qui sont soumises à la confidentialité au même titre que le pasteur, et qui sont là évidemment pas pour vous juger, mais pour marcher avec vous le temps d'un entretien dans le combat que vous livrez. La deuxième étape de la repentance, c'est de se remettre en route à la suite du Christ. Et donc la première chose à faire ici, c'est de tadam, chasser toute puissance à laquelle nous nous sommes soumis et de proclamer le règne du Christ sur cet espace de notre vie intérieure, qui a été laissé vacant par la puissance qui a été chassée. Et ensuite, on va démarrer un travail au niveau de notre âme, parce qu'il va falloir la rééduquer, cette âme. Déjà en lui rappelant que ce n'est pas elle qui décide, en fait. Ce n'est pas elle. Le Christ nous relève et il nous donne autorité non seulement sur les démons pour les chasser, mais aussi sur notre vie intérieure. Par votre nouvelle naissance, votre esprit a repris vie et ce n'est plus votre âme qui est aux commandes, c'est votre esprit qui est lui-même soumis à l'Esprit de Dieu. Vivre par l'Esprit, ce n'est pas une espèce de jeu mystique où on se met à entendre une voix qui nous dit ce qu'on doit faire ou pas faire, etc., quels habits choisir le matin, machin. C'est vivre dans la volonté de Dieu au moment même où notre chair veut nous emmener ailleurs. C'est ça, vivre dans l'Esprit. C'est pour ça que Paul dit en Romains 8, 13, « Si par l'Esprit vous faites mourir les actes mauvais que vous accomplissez dans votre corps, vous vivrez. » Si par l'Esprit, vous faites mourir, c'est à vous de le faire. Et c'est de ce combat-là dont il parle. Et puisqu'on parle de travail sur l'âme, à nouveau, il est bon de rappeler que l'âme, c'est psyché, en grec, c'est ce que j'ai mis ici, et qu'il y a des professionnels de la psyché qui existent, les psychothérapeutes, les psychologues, les psychiatres, ce sont des professionnels de la psyché, ils ont une formation pour ça. Et dans les thèmes de l'addiction en particulier, il y a des ressources qui existent, et qu'il ne faut pas hésiter à aller chercher, c'est aussi ce que je voulais dire par là, par le fait d'utiliser toutes les armes que le Seigneur met à notre disposition. C'est un vrai combat, c'est un combat acharné à mener, il ne faut pas lâcher, on a le Christ avec nous, et ça, ça change tout. Et finalement, il va sans doute falloir explorer les racines du mal. Quels sont les mensonges que nous avons crus ? Dans quelle faiblesse l'ennemi s'est-il engouffré pour établir sur notre vie une idole qui a réclamé à ce point notre attention, notre adoration et même nos offrandes ? Là, il y a là un travail à mener. Alors, tout ça peut être rapide. Tout ça peut être instantané. Ça s'est vu. Mais personne ne dit que ça le sera. Il se peut tout aussi bien que ce soit un combat de longue haleine. Mais même si personne ne promet que ça sera facile, même si personne ne promet que ça sera rapide, il y a quand même une promesse dans ce texte. C'est ce qu'on voit au verset 24 et au verset 25. « Qui me délivrera de ce corps voué à la mort ? Dieu soit loué, c'est par Jésus-Christ, notre Seigneur. » Au combattant qui se battra jusqu'à la fin, à celui qui poursuivra la course jusqu'à la ligne d'arrivée, il y a la promesse de la victoire. Parce que cette promesse ne dépend pas de nous, elle ne dépend pas de nos forces, elle ne dépend pas de nos capacités propres, elle dépend de celui qui a désarmé toute autorité, tout pouvoir, les donnant publiquement en spectacle quand il les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire à la croix. C'est Colossiens 2,15. Elle dépend de Jésus-Christ qui a dit, alors qu'il rendait son dernier souffle, « Tout est accompli ». Elle dépend enfin de celui qui, par sa grande puissance, a relevé Jésus d'entre les morts. Et celui-là, il vit en vous. Prions. Seigneur, nous savons que par nature, lorsque nous venons dans ce monde, parce que ce monde est un monde déchu, un monde affecté par le péché dans toutes ses dimensions, nous savons que nous naissons pécheurs, que c'est là notre nature. Mais nous savons aussi que par notre repentance, par notre reconnaissance de ton sacrifice à la croix, premièrement, il n'y a plus de condamnation pour nous, parce que la condamnation a été portée par ton Fils à la croix. Et deuxièmement, tu nous appelles saints. Tu nous as mis à part. Tu nous sanctifies. Et c'est là la nouvelle créature que nous sommes. Nous sommes saints. Et tu nous appelles à vivre conformément à cette sainteté qui est maintenant notre identité profonde. Seigneur, nous voyons que c'est un combat difficile, mais nous savons, parce que ta parole nous l'annonce, nous le dit, et que nous plaçons notre foi dans ta parole qui est vivante, qui nous sauve, qui vient nous chercher là où nous nous trouvons et qui nous en sort. Nous savons qu'il y a une porte de sortie, qu'il y a plus qu'une porte de sortie, qu'il y a la victoire là qui est à portée de main. Nous savons que le combat est parfois aride, qu'il est dur, qu'il peut être long, mais nous ne voulons pas baisser les bras, nous voulons persévérer jusqu'au bout, parce que tu as promis la couronne de la victoire à celui qui persévérerait jusqu'au bout. On ne veut pas s'avouer vaincu, parce que ça n'est pas vrai, nous ne sommes pas vaincus, jamais. Parce que la victoire ne dépend pas de nous, de ce qu'on peut croire au sujet de nos propres forces, mais elle dépend de toi qui as vaincu l'ennemi à la croix par le sacrifice de ton Fils, qui a été jusqu'au bout, qui a dit « Tout est accompli, il n'y a rien de plus à faire. » Seigneur, nous avons placé notre foi en ton Fils Jésus, qui a écrasé l'ennemi, qui est au-dessus de toute puissance, de toute autorité, de tout nom qui soit prononcé ici-bas. Tout est soumis sous ses pieds. Et tu dis que nous sommes, nous, assis avec lui dans les lieux célestes. C'est là notre positionnement spirituel. Seigneur, c'est ce que nous voulons vivre dans le concret de notre vie. C'est ce que nous voulons vivre dans le concret de notre vie. C'est ce que nous voulons déclarer à chaque fois que la tentation arrive. Seigneur, nous voulons utiliser toutes les armes que tu nous donnes, les armes spirituelles dont Un certain nombre ont été cités ce matin et il y en a d'autres. Et puis aussi toute l'intelligence que tu as mis dans les hommes qui ont étudié ta création et qui ont compris un certain nombre de tes lois et qui peuvent nous aider. Nous voulons trouver les solutions qui sont les tiennes, Seigneur, et nous te prions de nous guider, de nous orienter vers les bonnes personnes, les bonnes aides extérieures dont nous avons besoin. Et nous voulons aussi être là les uns pour les autres, pour nous soutenir, nous encourager dans le combat, tant que le combat durera. On veut vivre ça en Église, ensemble, parce que nous avons besoin les uns des autres. Comme Moïse, dont les bras étaient soutenus par ses frères d'armes dans le combat, on a besoin d'être soutenus, nous aussi. Nous le reconnaissons devant toi, bien humblement. Nous avons besoin de toi et nous avons aussi besoin des frères et des sœurs qui nous entourent. Seigneur, aide-nous à vivre cette dimension de la foi, cette dimension communautaire. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen.